93, ce midi, la voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc.
Salut, comment ça va?
Hey, si ça va bien, on a failli appeler Myriam pour qu'elle vienne commenter avec toi le troisième lien.
Eh oui, j'ai pensé immédiatement à Myriam. Je me suis dit, mais c'est quelle tristesse. Elle est pognée en Toscane, je pense. Qu'est-ce que tu veux faire en Toscane?
Horreur, la Toscane.
Ah, c'est affreux. Ah non, c'est affreux. Mais... parce que là, le troisième lien, monsieur...
Ben oui, c'est fait, là.
Tu dois jubiler, oui. Luc.
Ah, moi, écoute, j'en viens pas. Je m'attendais pas à ça. Là,
mais avec un peu de chance, Luc, peut-être qu'en Toscane, il y a plusieurs ponts, puis il y en a un, c'est le troisième, puis que Myriam le contempler, tu sais, au moins.
Des ponts construits par les Romains, mettons.
mais parlant d'Europe.
Les Étrusques. Hein?
Tu sais, parlant d'Europe, moi, je reviens du Portugal, puis à Porto, c'est une ville qui a moins d'habitants qu'à Québec. Deux rives réunies, là. Sais-tu combien il y a de ponts à Porto?
Non.
6 ponts.
Ah, bon, ils ont même un sixième lien.
Oui, même un sixième lien. Ils se battent pour le septième,
nous autres.
On a du retard, nous autres.
Écoute, monsieur, il faudrait repartir une autre bataille. Jean-Simon, pourquoi tu prends pas la tête du mouvement, là?
Écoute, j'y songe.
Tu y songes, hein?
Bon.
Mais écoute, blague à part, ouais. J'ai hâte de voir le prix, par exemple.
Ouais, le prix, le nombre de voix, quel transport en commun il y aura
là-dessus. Oui, mais regarde, moi, je pars juste de 9 km de tunnel. Ça va coûter une scène ou deux, cette affaire-là.
Ça devrait.
Bien que si l'argent est là, qu'ils aillent de l'avant, c'est la meilleure solution. C'est bien évident qu'un tunnel a toujours été la meilleure solution.
Ouais, puis tu sais, mettre un prix à 4 ans de la première pelletée de terre, à je sais pas combien de temps de la réalisation réelle des travaux, c'est un prix qui va finalement...
Exact.
Je veux dire, c'est une balise qui est quasiment dérisoire là, à ce stade-ci, à mon avis. Là.
Peut-être, mais pas tant que ça. Écoute, là, franchement, à un moment donné, là, tu regardes combien ça a coûté à telle place, puis à telle place, ça va finir par coûter pas mal la même chose, hein.
Cela étant dit, sur le troisième lien, Luc, je veux aussi t'entendre sur la méga transaction qui s'est finalement réglée aujourd'hui. Transat qui a accepté l'offre d'Air Canada. Mm-hmm. 13$ l'action. C'est-tu le meilleur dénouement qui était envisageable pour Transat, selon toi, ça?
Probablement, ça oui. Dans l'esprit des employés de Transat, oui. Dans l'esprit des consommateurs, évidemment, la disparition d'un concurrent, ça va pas bien nous servir. Là.
Non.
Et en deuxième lieu, cette idée que nous allons maintenir le siège social et ses fonctions, ça, ils nous font ce blague-là pas mal souvent là, à travers le temps.
À chaque fois.
Parce que la nature même d'une entreprise intégrée comme les Air Canada, c'est de couper ses coûts fixes qui sont en haut. Et ça, c'est où ces coûts-là? Ce sont des coûts qu'on retrouve au siège social. Alors ça, c'est un peu une blague. Puis deuxièmement, tu vas avoir une fusion entre le voyagiste d'Air Canada et Air Transat. Essentiellement, c'est ça qui va arriver. Ils vont probablement intégrer les avions. Ils vont garder la marque Transat probablement parce qu'elle va devenir leur marque vacances.
Ouais.
En bout de ligne, écoute, c'est pas une mauvaise transaction. Puis je sais que je vais dire quelque chose d'un peu gros là, mais 520 millions dans le monde moderne, c'est pas une méga transaction. C'est une transaction, comprends-tu?
C'est drôle parce que d'ailleurs, le groupe Mac qui avait aussi fait une offre à 14$ l'action. Comment ça se fait qu'on choisit l'offre à 13$ l'action? Parce qu'il y avait d'autres paramètres qui faisaient en sorte que l'offre d'Air Canada était plus intéressante?
Il y avait sûrement d'autres paramètres. Il y avait ensuite probablement le fait que Air Canada l'achète en espèces, les paye en cash. Peut-être bien que la différence, là, c'est moi qui m'avance, là, mais à vue de nez comme ça, le vite fait, là, ça a de l'être la différence. Il était prêt à sacrifier 1$ par action pour avoir du cash. C'est du cash que cette compagnie-là a besoin d'avoir. Il y avait un problème dramatique de liquidité, puis ça, un problème de liquidité, tu peux pas passer à côté, comprends-tu? Alors, moi, j'en déduis que, d'une part, l'intégration va se faire de façon beaucoup plus naturelle. Max, c'est un groupe immobilier qui a jamais été dans l'aviation. Et Max, c'est clair que ce qui les intéressait, c'était pas tellement l'aspect aviation d'Air Transat ou de Transat tout court, c'était l'aspect immobilier. C'est que Transat avait commencé depuis quelques années à vouloir, il avait même entrepris de le faire au Mexique, construire ses propres hôtels. Et là, Mac est intéressé, parce que Mac est intéressé dans l'immobilier. En bout de ligne, tu sais, ça change pas grand-chose à grand-chose, à part le fait qu'il y a un perdant ici, c'est le consommateur.
Absolument. Ouais,
quand tu y enlèves un choix comme ça, puis Transat, c'était un choix quand même de haute qualité. J'ai souvent utilisé les services de Transat. Ouais. Là, ça va être fondu dans le système d'Air Canada. Je dis pas qu'Air Canada a pas de qualité, là, mais grosso modo, il y a des trucs qu'on achète sur Transat qu'on peut pas acheter sur Air Canada, comme la classe club, là, quand tu fais des longs voyages de je m'en vais, là, non, je pars dimanche pour Israël, je vais visiter la Terre Sainte.
Ah oui?
Alors, quand tu t'en vas sur des vols de Transat, Transat va pas en Israël, c'est Air Canada qui y va, mais t'as droit à ce qu'ils appellent la classe club, qui est pas du tout le prix d'une classe affaires, mais qui te donne un fauteuil classe affaires. Alors ça, c'est comme, pour moi, c'est ça, quand tu fais un voyage de 8h30 de temps la nuit, là, ouais, t'aimes bien ça, avoir un grand siège.
Alors, en classe club, on embarque dans un avion d'Air Canada et on s'en va aux États-Unis, Luc?
Oui.
Où se tenait hier un premier débat entre les candidats à l'investiture du Parti démocrate. Premier parce qu'il y en a un autre ce soir.
Ce soir, oui.
Il y a tellement de candidats qu'il faut diviser le débat en deux. C'est-tu quelque chose qui se fait régulièrement, ça? Ou...
J'ai jamais vu ça, mais... puis en plus, il y en a quatre qui sont pas du lot, là. Ils sont 24 candidats, OK? Ils en ont présenté 10 hier, ils en présentent 10 ce soir. Puis il y en a quatre qui ont été considérés comme trop marginaux, vraiment,
ah ouais,
pour pouvoir apparaître sur l'estrade.
24 candidats, c'est complètement fou.
Ben, oublie pas qu'en 2016, les Républicains qui occupent la Maison-Blanche maintenant en avaient 18. Hein?
Ouais.
Ils sont partis à 18. Fait que prenons le chiffre 20, qui est vraiment le chiffre le plus plausible. 18, 20, c'est pas mal la même chose. Ceci étant dit, j'ai écouté attentivement le débat hier. Je regardais la couverture que la plupart des journaux québécois rapportent ce matin et qui est essentiellement une dépêche de l'agence France Presse et qui dit qu'Elizabeth Warren, la dame dominé, du Massachusetts, ouais, a dominé le débat.
C'est ton analyse aussi, non?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Elle a pas perdu le débat. En fait, ce que j'ai vu hier... Remarque que moi, j'ai toujours un peu les yeux de notre déformation professionnelle. J'ai travaillé à des débats comme ça, à préparer des joueurs dans le débat, puis tout ça. Alors, je le regarde techniquement, le débat, parce que je le sais très bien qu'est-ce qui se passe derrière avant que le débat ait lieu. Madame Warren, qui est essentiellement... Il y a trois leaders dans la course démocrate.
Ouais.
Joe Biden, qui est solidement en avance.
Mm-hmm.
Bernie Sanders, qui est pas très loin derrière, mais qui a plus de croissance, il semble plus monter.
Ça.
Puis Elizabeth Warren, qui est en montée sans arrêt depuis le début. Alors, elle, hier, elle s'est dit, et ses conseillers ont dû lui dire, écoute, ces débats qu'on connaît maintenant, là, ça vise à éliminer les plus faibles. T'es dans les plus forts. Mêle-toi pas trop de ça. Contente-toi d'être présente, de bien performer quand ce sera ton tour. Mais on n'a pas vu Elizabeth Warren intervenir, interrompre d'autres, participer passionnément à des aspects du débat, non. Donc, et l'autre question que je me posais, c'est que je regardais Mme Warren, femme impressionnante, là, tu sais, professeure à Harvard et tout ça, qui essaye de ramener toujours ses racines modestes. C'est vrai que ses racines sont modestes. Mais ça reste... Tu sais, c'est encore une fois par déformation professionnelle. Ça reste... Tu baisses le son de la télé, là, tu te la regardes, là. C'est une snob, là, tu sais. C'est une vraie snob.
Elle donne cette impression-là.
Une vraie snob. Cependant, c'est une snob intelligente. C'est quelques interventions hier, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. C'était remarquable comme elle a pu... Je ne comprends pas la dépêche de l'agence France Presse, mais je n'ai pas du tout vu ça comme ça.
Okay.
Par ailleurs, on a vu l'autre candidat qui, moi, me fait rouler de rire, là, c'est Beto O'Rourke, qui est un... Excuse-moi l'anglicisme, c'est un fauné, un préfabriqué.
Un faiseux, comme on dit.
Un faiseux,
ouais.
un prétentieux, vide à peu près. Tu sais, Descartes avait énoncé l'idée suivante, il ne peut y avoir aucun espace entièrement vide. Allez voir Beto O'Rourke, vous allez voir que Descartes s'était trompé. Enfin, on a pu déjouer l'approche de Descartes.
Ça aurait été un bon titre pour l'agence France Presse, ça, Luc.
Oh, ouais.
Citer Descartes en disant que Beto O'Rourke,
ton CV.
C'est un espace vide.
O'Rourke, c'est comme un pantin. D'abord, c'est un beau gosse. Puis, en fait, c'est un gars qui, quand il se regarde dans le miroir, il se trouve de son goût. Là.
Mais c'est la mode, ça, les beaux gosses, Luc? C'est ancien.
Oui, oui, mais tu parles de moi, là, OK. Là. On parle pas de moi ici, on parle... C'est Jean-Simon peut se classer, moi non, OK?
Non, mais tu sais, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, il y a quand même y a une mode aux beaux gosses en Occident.
Donald Trump.
Un
petit genre. Admets que c'est un petit genre.
Il y a un look.
Dans l'orange, on fait pas mieux.
Il y a un côté viril.
Ottawa.
Alors, O'Rourke, c'est une espèce de pantin qui fait blablabla. C'est tout ce que c'est, comme des ballons qui montent en haut. Tu te couches dans le fond du bain puis tu fais blablabla, puis tu vois les ballons qui montent. Là. Ben lui, O'Rourke, je le savais avant de le voir. Tu sais, c'est le beau gosse. Son costume est taillé à la perfection. Son petit look, tout ça. Vraiment, c'est une joke. Oublions ça, là. C'est le Marco Rubio. Vous vous souvenez de 2016, oui, Marco Rubio? Oui. Là, un moment donné, il avait paralysé. Là, il avait oublié les lignes que ces gars y avaient préparées. Il était venu comme un chevreuil avec les spotlights dans les yeux. Là. Bon, ben alors, O'Rourke, il nous a donné ça hier. Okay. Il y a eu quelques... D'abord, Bill de Blasio... C'est le maire de New York. On devient pas maire de New York en criant lapin. Là. Il doit avoir quelque chose derrière ça. Et de Blasio est essentiellement à 0% dans les sondages parce qu'il vient juste de se lancer. Mm-hmm. Et moi, franchement, je me disais, le maire de New York, honnêtement, je le connaissais pas plus que ça. Je savais qui c'était, mais pas plus que ça. Alors, j'étais très intéressé de voir ce qu'il allait faire. D'abord, c'est un gars extrêmement impressionnant sur le plan physique. Tu vois Beto, là, celui qui se trouve de son goût quand il se regarde dans le miroir, c'est un gars de 6 pieds et 3. De Blasio, c'est un gars de 6 pieds et 6.
Oh boy! Okay?
Puis une armoire à glace, là, je sais pas combien, mais c'était en 250 livres, bien solide. Un gars qui doit avoir, dans le début de la soixantaine, j'ai même pas été vérifié. Je ne savais pas à quelle place qu'il allait se situer. Ben là, monsieur, j'ai été un peu renversé. Il aligne de gauche à gauche à gauche à gauche toute. Là. Ça va être un gars qui va essayer d'occuper une partie du terrain qui appartient présentement... à Bernie Sanders, ça c'est clair. Est-ce que ça va lever? Je sais pas, mais il y a eu quelques envolées assez passionnées et assez convaincantes, dois-je dire. Okay. État également le sénateur Castro. Il n'est pas sénateur, attends. Je ne l'ai pas devant moi. Mais en tout cas, c'était un ancien membre...
Julian Castro, j'essaie de voir c'est quoi son rôle à lui.
Je pense qu'il était sénateur. En tout cas, peu importe. Le gars, tu vois que c'est un gars d'une seule cause, c'est la cause des Latinos. C'est lui-même clairement un Latino avec un nom comme ça. Et ça existe dans ce type de course, des candidats d'une seule cause. Ils sont là en sachant qu'ils ne deviendront jamais le candidat,
non, c'est ça.
Mais qui veulent créer un buzz, puis en même temps devenir des incontournables quand arrive le temps d'aller chercher la nomination. Et Castro a donné un puissant show hier. Évidemment, il y avait tout ce qu'il fallait avec la photo qui a fait le tour du monde du père et de sa fille.
Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, cette photo-là, cette image-là, Luc, à quel point tu penses que ça peut avoir un impact, ça peut nuire à Donald Trump? Parce qu'on a l'impression que Trump est comme immunisé contre tous les scandales de tout ordre.
Oui, ça lui nuit pas vraiment parce que sa gang trouve que c'est bien normal. Et la réaction d'un partisan de Trump ce matin, ou hier, c'est de dire, fait combien de temps qu'on leur dit d'arrêter d'essayer de traverser le Rio Grande? Fait combien de temps qu'ils courent après? Il a couru après, puis on a tout fait pour leur dire de pas le faire, puis on a fait tous les signes qu'il fallait, puis ils ont décidé qu'ils y allaient quand même, ils ont pris une chance, puis ils sont morts.
Tu penses pas quand même que même chez des partisans bien endurcis, ça peut pas avoir un genre d'effet à la Hélène Kurdi en 2015, pour en faire réfléchir deux, trois pareils? Parce que je comprends qu'il y en a une gang que c'est...
Pas chez la gang à Trump. La gang à Trump ont en commun de réfléchir, c'est pas vraiment quelque chose qu'on... Tu sais, quand tu penses à un partisan de Trump, le mot réflexion te vient pas en tête. Là. C'est pas naturel, ça.
Ton vieux 2, tu le mets sur qui pour les démocrates?
Il faut voir le débat de ce soir.
OK, tu le mets demain,
le débat de ce soir. Parce que ce soir, t'as Sanders et Biden qui vont être là. Et Mme Harris, la sénatrice de la Californie, qui est extrêmement éloquente. Et je pense, franchement, qu'il est trop tôt. Moi, mon feeling, mais c'est juste un feeling, ça s'appuie pas sur des informations que j'ai trouvées à droite et à gauche, c'est qu'on n'a pas encore vu le vrai candidat. Il y a quelqu'un, j'ai aucune idée qui va arriver à un moment donné. Comme Barack Obama est arrivé en 2008, en 2007, en fait. Il va arriver quelqu'un d'inattendu qui, je le vois pas.
Okay.
Parce que pour dire le vrai... Si les démocrates font l'erreur de choisir Joe Biden pour comme candidat, sais-tu ce que ça va donner? Une victoire de Trump à 60-40. Ouais. Joe Biden est la personnification même de ce qui a mené au phénomène Trump,
ben ouais,
de ce que les gens rejettent, la vieille politique, la vieille gang qui ont fait ça toute leur vie, puis qui jouent des games, puis patati, puis patata. Puis Uncle Joe, Joe Biden, c'est un des grands gaffeurs de l'histoire politique américaine.
OK, donc on s'en parle demain après ce fameux deuxième débat de ce soir, Luc, puis tu mettras ton vieux 2 rendu là.
Là, je le sais pas, là. N'oubliez pas les pensées de Descartes.
Oui, c'est ça, effectivement.
Il ne peut y avoir aucun espace entièrement vide.
Excepté Beto O'Rourke.
Excepté Beto lui-même.
Merci,
salut,
Luc.
Messieurs.
Salut, Luc.
Luc Lavoie. Avant de prendre une pause, je me retourne vers notre collègue François Thérien. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit concernant la cheminée, la flamme de la cheminée de Valero, la raffinerie du côté de la Rive-Sud, Saint-Romuald. Qu'est-ce qui se passe là?
Ben, en fait, c'est le brûleur, là, que c'est la flamme perpétuelle parce qu'elle fonctionne tout le temps. Mais là, apparemment, c'est spectaculaire au possible parce qu'on a eu plein d'appels. On en a même eu un d'une personne qui s'en venait sur Henri IV. Il arrivait de Val-Bélair.
Oui, il y a un panache de fumée.
C'est ça, lui, il pensait que c'était un feu à Saint-Foy. À un moment donné, il a dit non, ça a l'air d'être à Lévis. Mais c'est ça, c'est Valero qui est la flamme. Là, est très, très haute. Il y a eu une panne d'électricité dans ce coin-là. C'est peut-être lié, mais il n'y a aucune intervention des pompiers de Lévis. Donc, ça veut dire que c'est sous contrôle. J'ai appelé chez Valero. On m'a dit, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Alors, que effectivement, là, il se passe quelque chose, mais c'est sous contrôle.
À l'instant, il y a un auditeur qui vient nous écrire, de nous appeler au 670-9330 pour nous mentionner qu'il y aurait évacuation. Là, on va être prudent parce que c'est une personne qui nous l'a dit. Mais si vous en savez plus, vous travaillez dans le coin, vous avez des antennes là-bas à Valero, appelez-nous 670-9330-25226. Mais effectivement, là, j'ai vu les photos, là, le panache. On dirait que les charbonniers de l'enfer s'y sont mis. Là. J'ai rarement vu un panache de fumée aussi épais avec la flamme visible. Ça m'étonne pas que les gens capotent présentement. Là.
Ça arrive de temps en temps, ça dépend qu'est-ce qui brûle, là, parce que le pétrole, il y a différentes variétés, là, mais effectivement, là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe parce que on nous a dit chez Valero, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Alors, okay. Il se passe quelque chose, mais c'est sous contrôle. Là. C'est pas la raffinerie qui est en feu, là, c'est le brûleur qui est plus actif que d'habitude.
Si vous avez des informations, vous nous les faites parvenir, vous connaissez les moyens. On fait les vérifications diligentes et puis on vous revient avec une réponse après la pause. Merci.